Sir David Attenborough, les documentaires, les baleines, c'est la règle de trois de Tom Mustill. Petit, il se passionne pour les films du naturaliste David Attenborough, auteur et présentateur des séries Life on Earth, The Living Planet ou encore The Trials of Life diffusées par la BBC.
Animals nearly always let you know if they're going to attack you. If you know enough, as I was saying, if you know enough about animals, you should be able to know when an elephant is going to charge.
Une fois diplômé en biologie à l'université de Cambridge, Tom Mustill part en mission de conservation de la faune aviaire sur l'île Maurice. Il repère les pigeons roses, les perruches et les cresserelles. Ces espèces étaient devenues si rares que seule la reproduction en captivité pouvait les sauver de l'extinction, écrit-il aujourd'hui. Au milieu des années 2000, il travaille sur des documentaires. Au début, il prépare notamment les émissions de l'explorateur Josh Bernstein. There's adventure out there. Puis il produit et réalise ses propres films. En 2013, en Australie, il suit Chris Brolga, qui sauve et élève des kangourous orphelins. His mother was killed out the highway. Un an plus tard, un autre de ses documentaires, The Batman of Mexico, est commenté par David Attenborough.
Rodrigo Medellin is the champion of one of the world's most hated animals, bats.
Parmi ses nombreux films, Tom Mustill a également réalisé For Nature avec Greta Thunberg.
Our relationship with nature is broken, but relationships can change.
En 2015, avec Charlotte, une amie, Tom Mustill va observer les baleines en kayak dans la baie de Monterey aux États-Unis. Et au moment où il s'apprête à retourner sur Terre,
that's us. And then this happened.
Malgré les 30 tonnes de cette baleine à bosse, Charlotte et Tom s'en sortent indemnes.
Charlotte went back to work, but I couldn't let it go.
Who was this whale? What was it doing? Did it do that on purpose? I became sort of obsessed with whales.
Après un nouveau documentaire sur la relation entre humains et baleines en 2019, Tom Mustill publie désormais Comment parler baleines, un livre qu'il dédie à son père et, écrit-il, à la baleine à bosse CRC12564 qui m'a poussé vers cette aventure.
Mais oui, Tom Mustill, parce que cette baleine qui a failli vous emporter dans le fond, cette baleine à bosse, l'équivalent d'un autobus de 2 étages, elle a été localisée, la CRC 12564, et elle navigue sur la planète, et vous pouvez la suivre.
I mean, it's an extraordinary thing.
C'est extraordinaire.
Because, you know, normally when something like this would
en général, quand quelque chose comme ceci se produit dans la nature, vous vous dites, bon, bah, c'est la fin, on n'en apprend rien. On n'en tire aucune conséquence, mais pour moi, grâce à ces nouveaux outils, grâce à Citizen Science, grâce à l'intelligence artificielle, je sais qui est sa mère, où elle est née. Et aujourd'hui, oui, je peux suivre ses mouvements, sa navigation dans l'espace, et je pourrais même la retrouver.
Et si vous la retrouviez, vous pourriez émettre les mêmes sons qu'elle, peut-être. Car parler baleine et chanter ou mugir comme une baleine, vous pouvez le faire. La baleine à bosse, par exemple. Oui, je sais, Tom Mustill, ça froisse votre modestie, mais vous pouvez le faire.
J'espère qu'aucune baleine à bosse nous regarde. Mais j'ai beaucoup passé de temps dans la mer à les écouter. Elles font des centaines de sons différents. Certaines ont un bruit de petites gouttes, ou d'autres, c'est comme un chant.
And then like rumbles, like...
Et il y en a d'autres, c'est quelque chose de rauque.
It's a big world of whale,
il y a vraiment une grande palette de sons.
But we have no idea yet
mais on ne sait pas encore ce que cela signifie.
Ce livre, Comment parler baleine, d'une certaine façon, c'est pour favoriser une compréhension interespèce, un dialogue interespèce, que l'on noue, que l'on renoue des liens qui ont été tellement mis à mal.
Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'il est difficile de trouver un lien avec le monde naturel, créer des connexions. Mais lorsqu'on ressent ces connexions, ces liens avec une espèce, cela nous aide à les protéger, à en prendre soin. Quelque chose m'a beaucoup surpris pendant que je faisais des recherches pour ce livre, c'est que les machines, la technologie, qui souvent sont un problème pour la nature, peuvent nous aider à nous rapprocher de ces espèces. C'est l'histoire que l'on retrouve dans ce livre.
Hier, vous parlez de l'intelligence artificielle, ici même. Si un jour, on arrive à décrypter le langage des baleines grâce à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous leur diriez, vous, spontanément, à la première baleine que vous rencontreriez?
Well, the first one I'd meet,
À la première, je dirais, emmène-moi voir ce que tu trouves le plus intéressant dans la mer. Une grande partie de l'océan, la majorité de l'océan n'est pas explorée, est inconnue pour nous, et on commence à peine à comprendre la complexité de la vie de ces animaux. Certains animaux pleurent à la perte d'un proche, d'autres portent des poissons comme un chapeau, d'autres sauvent des personnes, d'autres brisent des bateaux. Et donc, je dirais, montre-moi ton monde. Parce que plus on comprend le monde des baleines, plus cela ouvrira nos horizons et plus cela nous aidera à les protéger.
Parlez-nous du projet SETI, C-E-T-I, qui fait référence d'ailleurs à l'Institut SETI en Californie, où travaille une astrobiologiste qu'on a reçue régulièrement, Nathalie Cabrol. Le projet SETI, c'est parler aux baleines en 2026 ?
C'est ça. C'est la plus grande expédition d'enregistrement de sondes d'animaux de l'histoire. Et ça, c'est une grande, grande expédition parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, des programmes d'intelligence artificielle développés pour trouver des patterns, des modèles dans une grande base de données de communication. Les outils qui trouvent des modèles dans la langue des humains qui permettent, par exemple, à Google Translate de traduire de l'anglais en français. Cette expédition, SETI, s'intéresse aux cachalots, des très très grands cétacés qui ont une vie sociale très complexe dans la mer de Dominique. Et l'objectif est de les écouter pendant des années et des années, écouter ces conversations, écouter les petits, écouter les nouveaux arrivants qui commencent à discuter avec un groupe de cachalots, voir des modèles, voir des similarités dans leur conversation pour avoir la première conversation dans les deux sens avec une autre espèce. Je pense que 2026 est optimiste, mais je parlais avec un des grands scientifiques en charge de SETI et il ne pense pas que ce soit impossible dans les 10 à 15 prochaines années. Nous aurons un moment comme ça. Alors, nous serons vivants pour vivre ce moment.
Vous parlez de cachalot, je crois que vous imitez le bruit. Vous faites le cachalot aussi.
Oh, come on!
Oh, c'est quoi? Vous l'avez fait tout à l'heure, vous êtes merveilleux.
Les cachalots, c'est très différent des baleines à bocs. Les baleines à bocs ont beaucoup de tons différents dans la communication. Les cachalots, c'est plus des clics, comme du morse. Donc, quand on est dans la mer, on a l'impression d'entendre ça. Quelqu'un qui tape avec une règle. Quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort.
Voilà. Tom Mustill, on va évoquer avec Nadia et avec vous ce qui se passe dans des projets extrêmement controversés d'extraction minière dans les fonds sous-marins dans le Pacifique.
Oui, c'est imminent puisque cette année, cette exploitation minière en haute mer, elle pourrait être autorisée. C'est l'ONU qui va trancher dans les prochaines semaines, prochains mois. L'ONG Greenpeace a déjà alerté sur la façon dont ça va empêcher les mammifères marins de communiquer. Plus précisément, c'est le bruit. C'est le bruit qui est généré par les moteurs ou encore par les pompes qui va être dévastateur. Ça va provoquer du stress, bien sûr, mais en plus, ça produit des sons qui vont interférer avec les fréquences émises par les baleines et les dauphins. Il y a un exemple très concret. Ça va perturber les vocalises entre la mère baleine à bosse et son petit. Êtes-vous inquiet? Et est-ce que ça veut dire qu'il faut se passer de ces ressources pour protéger ces mammifères?
Je suis très préoccupé par cela. Plus on écoute la vie des baleines, plus on comprend que le son est essentiel pour elles. Toutes les espèces, les 19 espèces de cétacés utilisent le son. C'est essentiel à leur vie. Pendant la pandémie de COVID-19, lorsqu'il y a une réduction du bruit des bateaux, nous avons remarqué que les hormones de stress dans le sang des baleines avaient diminué. Nous avons remarqué que leur communication était différente, plus compliquée. Cela indique que déjà aujourd'hui, la mer est tellement pleine de bruit que l'on perturbe déjà leur vie. En haute mer, là où ils veulent faire de l'extraction minière, eh bien, ce sont des zones très peu étudiées. Il y a beaucoup de baleines, mais également de plantes et d'animaux qui seront détruits. Nous venons juste de nous intéresser à ces régions. C'est comme faire de l'exploitation minière dans une forêt alors qu'on n'a même pas vu ce qui y vivait. Les baleines vont également être très perturbées, mais peuvent au moins s'éloigner. Mais les animaux qui vivent à la surface ne pourront jamais se rétablir.
Il y a un autre sujet qui vous tient à cœur et qui est très ambivalent, c'est ces films documentaires, ces films animaliers. De plus en plus de films qui ont un succès fou sur les plateformes et sur les chaînes traditionnelles, qu'elles soient anglaises ou françaises ou européennes ou américaines. Et pourtant, il y a une empreinte carbone, il y a un impact considérable lié à la réalisation et à la production de ces films documentaires animaliers. Faut-il les arrêter? Faut-il les faire autrement? Et puis, il y a aussi cette question Bien sûr que ça donne à voir la nature et ça émerveille, mais ça peut inciter beaucoup de gens à aller détruire des écosystèmes qui sont filmés. Qu'est-ce que vous en pensez?
It's a very difficult question.
Une question très difficile. En effet, si vous décidez de ne plus jamais aller dans la nature parce que vous risquez de détruire le milieu naturel, on va l'oublier et on ne va pas vouloir le protéger. Mais en tant que cinéaste, j'ai vu l'empreinte carbone de ces documentaires dans certains de mes films avec David Attenborough et Greta. Nous avons réduit notre empreinte carbone de 50% très facilement avec Greta Thunberg. On a tout fait à distance, on n'a pas utilisé l'avion et l'empreinte carbone était très faible. Je pense qu'il est toujours important de se déplacer. Mais souvent, on va d'Europe en Afrique, mais il y a déjà des cinéastes en Afrique qui pourraient faire ces films. Vous savez, les éléphants sont dans leur pays, alors on devrait travailler avec d'autres personnes dans d'autres pays.
Un exemple à suivre. Merci Tom Mustill d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Merci à votre traducteur Tom, un autre Tom, Tom Viard. Comment parler baleine, c'est à la fois scientifique, passionné et personnel, subjectif. Et c'est chez Albin Michel. Et on est très content d'avoir revu des images du gourou David Attenborough, Sir Attenborough, votre maître. Merci encore.